Radio Kapi.
Le gouvernement du Nord Kivu réaffirme la détermination de l'armée à récupérer Bunagana ainsi qu'une partie de Jomba occupée depuis 3 mois par le M23 et rassure ainsi les voix qui s'élèvent pour fustiger ce que ces dernières qualifient de passivité des FARDC et du gouvernement face à ces terroristes. Vente des fournitures scolaires dans des écoles de Bukavu. Certains parents le dénoncent et demandent au ministre provincial de l'EPST du Sud Kivu de faire respecter sa propre mesure qui interdit justement aux gestionnaires d'écoles de vendre des objets scolaires et souvent au prix très élevé. Et puis, l'invité de ce soir, pasteur Mukubwa Kastaïm, point focal du réseau des populations autochtones pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la RDC, il nous parle de la lutte de son association dans la recherche d'une vie paisible des peuples autochtones, estimée à plus de 5000 dans la province du Maniema. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part du Nord Kivu. 3 mois déjà depuis l'occupation de la cité de Bunagana ainsi qu'une grande partie du groupement des Jomba à la frontière avec l'Ouganda par la rébellion du M23, des voix s'élèvent de plus en plus pour fustiger la passivité des FARDC et du gouvernement à récupérer cette entité stratégique sans oublier les conséquences socio-humanitaires provoquées par cette occupation. En réaction, le gouverneur du Nord Kivu dit réaffirmer la détermination de l'armée à récupérer cette partie du territoire national. Dans un briefing récemment à Goma, le lieutenant-général Constant Dima a rassuré la population que les FARDC travaillent pour récupérer Bunagana. Des détails dans ce reportage de Goma.
La cité de Bunagana a totalisé mardi dernier 3 mois depuis qu'elle est occupée par les rebelles du M23 et leurs alliés. Ces derniers contrôlent également plusieurs localités des groupements Jomba, Rusigari et Bweza en territoire de Rutshuru. Ces mouvements rebelles s'organisent davantage dans cette partie du nord Kivu. Par exemple, il a installé une administration parallèle, fait payer des taxes mensuelles aux habitants qui sont contraints de regagner leur milieu, sans oublier toutes les actions dont sont accusés ces rebelles. Mécontents de cette situation, plusieurs acteurs sociopolitiques locaux exercent une pression sur les autorités militaires afin de récupérer cette cité d'importance économique capitale. Devant la presse internationale, samedi dernier, à Goma, le lieutenant-général Constant Dima a souligné « Nous sommes en opération, nous devons coûte que coûte récupérer la situation à Bunagana ». Fin de citation. Constant Dima n'a pas manqué de déplorer la situation humanitaire des déplacés internes ainsi que les réfugiés refoulés depuis une semaine par l'Ouganda et qui vivent dans les mauvaises conditions à Rutshuru.
Pendant ce temps, en Ituri, plus de 200 enfants soldats sont sortis des différents groupes armés depuis le début de cette année grâce au soutien de la MONUSCO. Cette information a été rendue publique mardi à Bunia par la section protection de l'enfant de la MONUSCO. C'était au cours d'un atelier de validation du plan opérationnel de démobilisation, désarmement et réinsertion pour enfants. Les ONG de défense et de protection des droits des enfants qui participent à cet atelier demandent au gouvernement d'instruire les responsables des groupes armés favorable au processus de paix, de libérer tous les autres enfants qu'ils détiennent pour leur réinsertion dans la vie civile. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Cette ONG de protection de l'enfant participe à cet atelier pour réfléchir sur les voies et moyens de sortie des enfants qui sont encore dans les groupes armés. Et c'est à travers la validation du plan de DDR enfants que cette démarche pourrait aboutir, indiquent les organisateurs. Ce plan prévoit entre autres la mise en place des clubs d'écoute pour enfants ou encore des familles transitoires qui peuvent servir des lieux d'accueil pour ces enfants. Le responsable de la section protection de l'enfant à la MONUSCO à Bunia indique qu'en l'espace d'une année, plus de 200 enfants sont déjà sortis des groupes armés grâce à l'appui de la mission onusienne. Jean Mouzama invite les leaders des groupes armés CODECO, FPIC, FRPI qui sont déjà engagés dans les processus de paix à libérer les restes des enfants qu'ils détiennent afin qu'ils réintègrent la vie civile.
Les enfants ne donnent ni de titre ni de grade aux dirigeants des groupes armés. Les enfants doivent être déjà libérés. C'est une preuve de bonne foi aux autorités dans les négociations qu'elles ont avec les membres de groupes armés de ne pas oublier l'aspect des enfants.
Pour la conseillère du gouverneur des provinces en charge des questions genre, le gouvernement attend la matérialisation de ces plans afin de permettre à tous ces enfants de reprendre une vie normale. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Direction le sud Kivu. Je vous l'ai dit dans le sommaire, certains parents de Bukavu désapprouvent la vente des fournitures et uniformes scolaires dans des écoles. Ces parents demandent au ministre provincial de l'EPST de faire respecter sa propre mesure interdisant aux gestionnaires d'écoles de transformer les milieux éducatifs en marché de vente des objets scolaires et souvent au prix très élevé. Jean Kassami nous fait le point.
Un journal de classe qui coûte 1500 francs congolais sur le marché se négocie autour de 4000 à 5000 francs congolais dans les écoles. Les tissus pour une uniforme vendue à 5 dollars par les commerçants revient entre 20 et 25 dollars lorsqu'il est payé auprès d'une école. Germain Sewanda, parent, sollicite l'implication de l'autorité de tutelle pour faire respecter sa mesure.
Nous avons acheté le journal de classe où il y a des logos de l'institution, même les uniformes. Ici, par exemple, on achète le journal de classe à 2,5, ce qui fait 5 000 francs. Mais je pense qu'ailleurs, ça doit être moins cher par rapport à ça.
La ministre provinciale de l'enseignement primaire et secondaire au sud Kivu, Geneviève Mizumbi, réitère sa détermination à faire appliquer cette mesure sans faille.
Que les parents dénoncent, et avec des cas précis, ne peuvent pas se limiter seulement à ce qu'elle a mangé. On ne peut pas généraliser. S'il y a des cas isolés, nous allons prendre des sanctions du douane.
Jacques Chirimwami, délégué syndical des enseignants au site Kivu, pense que la décision ministérielle a été annoncée avec retard et que par conséquent, elle a moins de chances de réussir. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans la province du Haut-Katanga, entre-temps, les sanctions sont tombées. Les chefs d'établissement scolaire de Lubumbashi qui ne respectent pas le principe de la gratuité de l'enseignement sont dans les collimateurs des autorités éducationnelles de la province. Certains ont déjà été frappés. Exemple des responsables de deux grandes écoles conventionnées catholiques qui ont été trouvés en train de vendre obligatoirement certains effets scolaires. Écoutez à ce sujet l'inspecteur provincial principal Grégoire Mouka, joint par Jean Gandou.
Il y a déjà des mesures de suspension qui frappent bon nombre de chefs d'établissement. Ces mesures-là ont été peut-être prises par les chefs de sous-division, mais nous allons entériner ces mesures-là parce que ce sont des mesures salutaires pour les parents. Et nous avons constaté qu'il y a des écoles qui demandent 40 dollars pour l'acquisition des bancs. Il y a des écoles qui exigent la tenue des gymnastiques. J'étais au lycée Twindélé. Nous avons appris que l'école secondaire fait payer 35 000 francs aux élèves pour l'acquisition de la tenue des gymnastiques. J'ai intimé l'ordre à la sœur préfet ou à son intérimaire de procéder au remboursement des 35 000 francs. Et moi-même, je m'y rendrai régulièrement pour voir si les 35 000 francs vont être effectivement remboursés. Il y en a en ville, dans certains magasins, à 10 000, 15 000 francs. Pourquoi les enfants doivent nécessairement acheter là où la tenue coûte 35 000 francs? Et ils ont perçu de l'argent, ils n'avaient pas encore distribué la tenue en question.
Province du Nord-Ubangi, deuxième journée ce mercredi de la réunion du comité provincial élargi de l'éducation. Au cœur de ces assises, les actes de vandalisme menés par des candidats malheureux de cet établissement d'enseignement secondaire à la récente édition de l'examen d'État. Ces derniers, au lendemain de la publication de leurs résultats non satisfaisants, ont manifesté leur colère contre les autorités scolaires. Sept jeunes manifestants ont été arrêtés. Le récit de Paul Richard Malengela.
La ville de Badoli était chef-lieu du Nord-Ubangi. Bangui a été ajouté le week-end dernier en cause de finalistes malheureux à l'examen d'État ont manifesté leur colère pendant des jours. Armés de pierres et de goudins, ils ont attaqué l'inspection principale provinciale de l'EPST Nord-Ubangi, y compris leur direction scolaire. Ce désordre a paralysé la ville. Les autorités ont dépêché la police qui les a dispersés à coups de gaz lacrymogène. Sept manifestants, dont trois filles, ont été interpellés. Leurs camarades sont alors allés saccager la résidence du commandant ayant conduit cette opération. C'est pourquoi le comité provincial élargi de l'EPST s'est réuni en urgence hier mardi et ce mercredi sous la conduite du vice-gouverneur de province Oscar Oshobale. Des décisions sont attendues à la fin de la journée. En réaction, le président du conseil provincial de la jeunesse a condamné cette barbarie des jeunes. Toutefois, Patrick Komongo a sollicité un assouplissement des sanctions à l'encontre des jeunes arrêtés qui auraient été manipulés selon lui. Pour sa part, le président du cadre de concertation de la société civile, Taylor Taïma, condamnant et qualifiant ces actes d'irresponsables exigent plutôt une enquête en vue de sanctionner ceux qui ont l'habitude de rançonner les finalistes en leur proposant les phénomènes illicites appelés laboratoires. Bandaka, Paul Richard Malingue, la Radio Okapi.
Kassai Oriental, les problèmes d'eau, d'électricité, le désenclavement de la province, l'emploi des jeunes, ainsi que la situation de la relance de la société minière de Bakwanga Miba ont été mardi au centre des discussions entre le Premier ministre Samalou Kondé, la société civile, la Fédération des entreprises du Congo FEC et les jeunes. Plusieurs couches de la population reçues en audience affirment que le Premier ministre a été réceptif. Le compte-rendu de Esther Ndalafina.
Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a accordé plusieurs audiences à quelques couches de la population du Kassai Oriental, parmi lesquelles la société civile et la Fédération des entreprises du Congo. Rachel Kapinga, coordonnatrice provinciale de la nouvelle société civile, revient sur le point abordé avec le Premier ministre.
Nous avons parlé de prioriser l'agriculture locale. Nous avons dénoncé les travaux des infrastructures qui marchent à pas de tortue. Nous avons parlé de port de Nomba pour désenclaver la province, la situation de la jeunesse qui n'a pas d'emploi, les appuyer en entrepreneuriat. La situation de l'eau, il n'y a pas du courant sur la ville. Renforcer Tchala, ça sera mieux. Il nous a promis qu'il a pris ça en compte et dès ce soir même, va y travailler avec son gouvernement.
Le conseil provincial de Diamantère et les membres de la FEC ont abordé les points sur l'énergie et l'économie. Dominique Ilunga, directeur provincial de la FEC.
Nous avons demandé que le financement nécessaire soit disponible pour finaliser le projet Katende, mais aussi notre rivière pour la construction de mini-barrages. Nous voulons le paiement de la dette intérieure à travers la FEC. Mais également, nous avons demandé à ce que les entreprises locales bénéficient des travaux qui se font dans le pays.
Signalons qu'avant son retour à Kinshasa, le Premier ministre a visité différents chantiers ouverts au Kassai Oriental. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis, en RDC, il s'observe depuis le mois d'août dernier une dépréciation de la monnaie locale face aux devises étrangères. Le taux de change connaît une légère augmentation depuis quelques mois maintenant et cela inquiète la population ainsi que certains spécialistes de l'économie. Priscille Kabuya nous fait le point sur ce qui a été dit au cours du magazine Parole aux auditeurs de ce matin.
Actuellement, sur le marché d'échange, un dollar américain s'obtient désormais à 2000 francs congolais contre 2000 francs hier. Entre-temps, le gouvernement a annoncé l'embellie économique avec une mobilisation de recettes de près de 145% comme taux de réalisation. Alors, qu'est-ce qui serait à la base de cette dépréciation? Quel impact de cette mobilisation de recettes sur le vécu quotidien? La population a réagi sur cette situation au cours du magazine Parole aux auditeurs, qui recevait Dr Noël Tiani Mondiavita.
Jusqu'alors, le gouvernement, voire la Banque centrale, n'a pas encore maîtrisé ce que nous appelons ici les taux parallèles sur le marché.
Dans les institutions publiques, où cela a été plus constaté, où on part payer, en des francs congolais, on vous dit de payer au taux de 2070 francs.
S'agissant de la raison à la base de cette dépréciation monétaire, Dr Noël Tiani, économiste et monétariste, évoque le principe de l'offre et la demande et propose que le gouvernement définisse une vraie politique économique financière pour résoudre une telle inflation concurrente en RDC.
Je dirais que notre gouvernement doit se doter d'une véritable vision de développement, mais au-delà de cela, ceux qui sont en charge des finances doivent pouvoir doter le pays de ce que j'appelle une véritable politique économique et financière.
Et puis cette tentative d'évasion des détenus de la prison centrale du cinquantenaire de Bandundu-Ville, province du Kwilu, des détonations en armes ont été entendues dans la matinée d'hier, créant la panique au quartier environnant cette prison. À cet effet, des rumeurs se sont répandues évoquant l'attaque de la ville et qui aurait mort d'hommes. La police du Kwilu dément cette information. Des précisions avec Irène Boma.
Contrairement à ce qui se rencontre à travers la ville de Bandundu au sujet des détonations d'armes entendues dans la matinée de mardi au niveau de la prison centrale du cinquantenaire, faisant état d'abord de la mort d'un détenu, ensuite de l'entrée dans la ville des assaillants armés, créant ainsi la panique dans les chefs de certains habitants, la police nationale congolaise du Kwilu parle d'une fausse information. Le colonel Camille Atungale, chargé des communications de cette police, fixe l'opinion.
Il y en a qui m'ont appelé pour me dire, Bakoutine. Bandundu, il y a des infiltrés, non. Il y a eu une petite tentative d'évasion au niveau de la prison du cinquantenaire de Bandundu. Voilà pourquoi les policiers de garde étaient obligés d'user des armes pour essayer de maîtriser ces prisonniers qui voulaient quitter la prison de manière illégale. Il y a eu deux prisonniers. L'un, en voulant escalader avec le coup de feu qu'il y a eu, il est retombé et les fils barbelés l'ont blessé au niveau de l'orteil. Un deuxième, qui voulait également escalader, a été blessé au bras. Les deux blessés, ils sont à l'hôpital général de référence de Bandundu. Il n'y a pas eu un seul corps sans vie. Ça, c'est faux.
Signalons qu'à la suite de cette panique, les activités scolaires ont été paralysées dans les écoles situées aux alentours de la prison centrale de Bandundu. Les élèves de certaines écoles ont été renvoyés dès les premières heures. Bandundouville, Irène Boma, Radio Okapi.
Actualité, Afrique monte.
Le cercueil de la reine d'Angleterre est arrivé mardi soir à Londres en provenance d'Écosse où elle est décédée jeudi 8 septembre dernier avant qu'elle ne repose pour l'éternité auprès de son époux, le prince Philippe, dans une chapelle du château de Windsor. Les Britanniques ont une dernière fois l'occasion de lui faire leurs adieux pendant près de 5 jours avant des funérailles nationales prévues le lundi prochain.
L'invité.
Il s'agit du pasteur Mukubwa Kastaï Mputu Revocat, point focal du réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la RDC. Il nous parle de la lutte de son association dans la recherche d'une vie paisible des peuples autochtones estimée à plus de 5000 et vivant au Maniema. Il en appelle à l'implication de tous. Pasteur Mukubwa Kastaï s'entretient avec Florence Kiza. Pasteur Mukubwa Kastaï Mputu, bonjour.
Bonjour, madame.
Encore une fois, vous venez de réunir tout autour d'une table les autorités politico-administratives, le peuple autochtone et la société civile pour parler de la situation des peuples autochtones. Quel est le souci de Repalef en organisant cette rencontre?
Le souci de Repalef en organisant cette conférence de débat, c'est porter à la place publique les desiderata des peuples autochtones et surtout en présence des peuples autochtones. Car dit-on, comme disait Gandhi, si vous faites quelque chose pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. C'est pourquoi nous les avons invités cette fois-là. Ils étaient dans la salle, ils ont parlé de vive voix devant les autorités pour que les autorités puissent comprendre. Et nous, nous avons relayé leur message afin qu'il y ait un changement notable réellement dans les chefs des peuples autochtones.
Votre rencontre a tourné autour du rôle des femmes autochtones dans la préservation et la transmission des savoirs traditionnels. Quels sont ces savoirs?
Dans le foyer ou dans la communauté des peuples autochtones, la femme a une prédominance. C'est pourquoi elle a la charge de transférer, de préserver les savoirs traditionnels auprès des générations futures. Les savoirs traditionnels des peuples autochtones sont, par exemple, la pharmacopée, la tradition par rapport à la chasse et à la pêche, parce que les peuples autochtones, eux, sont des chasseurs-cueilleurs. Ils ne vivent que de la chasse, de la cueillette et des ramassages, tels que nous l'avons étudié depuis très longtemps. Et c'est pourquoi ils ont présenté, même devant la communauté, leurs savoirs endogènes. Ils ont démontré comment ils travaillent avec les plantes pour guérir les malades et les faiblesses de tous ordres dans l'organisme des humains.
Chaque année, vous avez toujours plaidé en faveur des peuples autochtones du Maniema. Quelle est leur situation actuelle?
Madame la journaliste, il n'y a pas encore de véritables changements. Nous plaidons chaque année, mais nous n'avons pas encore eu de véritables subsides pour travailler en profondeur. Avec la GIZ qui est venue notre partenaire, elle nous a aidés d'une manière ou d'une autre, mais nous avons mis l'accent devant l'autorité provinciale, devant l'autorité de l'Assemblée provinciale, pour qu'ils travaillent de concert avec nous, de commun accord pour que cette lutte ne soit pas seulement la lutte du Repalef, de la PDMA ou la DGPA, mais que ce soit la lutte concertée avec non seulement les autorités provinciales, mais aussi avec les autorités législatives. C'est pourquoi la loi est là, la proposition d'édit est là, pour que nous puissions voir dans la mesure du possible comment relever la face des peuples autochtones dans la province du Maniema.
En quoi est-ce que vous pensez que l'édit viendra résoudre tant soit peu le problème des peuples autochtones dans la province?
L'édit viendra résoudre le problème parce que il y a les problèmes sectoriels. Il y a dans l'édit ceux-là qui vont briser la loi en enfreignant le droit des peuples autochtones. Il y a des punitions là-dedans. Les infractions qui sont commises par les communautés autres que les peuples autochtones seront directement en difficulté avec la loi. Et c'est pourquoi je crois que quand la loi va s'appliquer, je crois qu'on va redresser réellement la situation des peuples autochtones. Et encore, nous allons plaider davantage pour qu'il y ait des grands projets qui vont aider les peuples autochtones à émerger, les grands projets avec d'autres partenaires autres que la GIZ. Mais nous demandons aussi aux autres partenaires de tourner les regards vers les communautés autochtones pour que les changements puissent se manifester directement dans la vie des peuples autochtones.
Mais aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent se lancer dans l'agriculture. Je pense que c'est une bonne chose.
Ils veulent se lancer dans l'agriculture, c'est une meilleure chose. C'est pourquoi nous allons demander à ceux-là qui ont la possibilité d'amener les instruments de l'agriculture pour qu'ils les aident, en fait, de se relancer dans l'agriculture, une agriculture de consommation seulement. Je sais, bien sûr, parce qu'ils vivent tous dans des milieux déshérités et même loin des routes principales et secondaires. Ils sont chasseurs-cueilleurs. Maintenant, ils veulent se lancer dans l'agriculture. Or, en se lançant dans l'agriculture, la sédentarisation véritable va se manifester.
Est-ce que ça, c'est la responsabilité de votre association?
Nous, Repalef, nous sommes une organisation de la société civile. Nous venons seulement à rescousse, mais celui qui a réellement la responsabilité directe, ce sont toutes les autorités, depuis le niveau national jusqu'au niveau le plus bas. C'est pourquoi nous avons invité cette fois-là aussi les chefs coutumiers, les chefs des secteurs et des chefferies des trois territoires où vivent les peuples autochtones pour qu'ils entendent la vérité que nous devrions exposer devant eux et même la maltraitance qui vient parfois à travers eux. Ils puissent comprendre que ce qu'ils font contre les peuples autochtones, ce sont les choses qui sont inacceptables.
Pasteur Mukuba Kastaïma, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci Madame la journaliste.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.